Bonjour mesdames, merci d'être là.
Bonjour.
Vous êtes à côté là à l'UQAM, c'est juste à côté de nos studios. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Un sujet qui est un peu costaud aujourd'hui, évidemment, on se le disait en 15 minutes, on pourra jamais tout couvrir ce large sujet, mais ça m'intéressait beaucoup de poser cette question et je veux débuter cette discussion avec une citation de peut-être l'une de vos collègues, cette psychologue Christa J'appelle, oui, qui est psychologue du développement et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Et je lisais une entrevue qu'elle a menée dernièrement, une phrase qui a vraiment retenti, qui a fait résonner beaucoup de choses en moi. La littératie est la clé du succès à l'école. Au début, on apprend à lire, mais après, on lit pour apprendre. Ça, c'est le cas pour bien des gens. C'est le cas aussi, j'imagine, pour de jeunes autistes.
Oui, alors tout à fait. Merci aussi de l'invitation. On est très contentes toutes les deux de participer à cette émission qui va parler un petit peu du rapport à la lecture des jeunes qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Et oui, effectivement, la lecture en tant qu'objet culturel est vraiment à exploiter dans notre pratique d'enseignement et aussi dans la vie courante. Hein. On parle aussi en famille. Pour ouais. que ces personnes-là puissent rentrer et comprendre aussi la culture. Donc oui, lire, c'est apprendre à décoder, mais c'est surtout apprendre à partager un certain nombre de références culturelles à l'écrit et à l'oral. Donc,
Est-ce que d'entrée de jeu, pour un jeune, un enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, est-ce que décoder, c'est déjà une difficulté?
Oh, ça serait difficile de pouvoir répondre de façon très générale à cette question. Parce qu'on le sait maintenant, hein, tous les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme sont très différents.
Oui.
Hein, selon le trouble qu'ils ont et puis aussi par rapport à leur caractère. Et surtout et avant tout par rapport à l'intérêt qu'ils trouvent à la lecture.
Ouais.
Hein, c'est surtout cette condition-là. Est-ce que je sais ce que ça veut dire, lire? Est-ce que je suis rentrée dans cette culture du livre? Comment j'y suis rentrée? Alors, ça va beaucoup conditionner, bien sûr, leur apprentissage du décodage. Puis la lecture, c'est loin d'être uniquement du décodage. C'est surtout beaucoup d'autres choses que le décodage. C'est comprendre l'univers, comprendre le sens de cet univers fantastique qui nous est proposé ou très pragmatique lorsqu'on lit une recette de cuisine. Mais il faut aussi se rendre compte que si on lit notre recette de cuisine, c'est parce qu'on peut en faire quelque chose. Alors,
ouais,
c'est très complexe, la question de la lecture, on a du mal à parler de la lecture, mais plutôt des lectures. Il y a tout un tas de lectures différentes. Il y a énormément de supports différents pour lire, aussi bien pour un album de littérature jeunesse avec très peu de mots. Il y a même des lectures que l'on pourrait penser silencieuses. Hein? Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de différences selon les enfants et selon le support qui est utilisé. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'on a beaucoup d'a priori sur l'idée que certains enfants, parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, hein, ou parce qu'ils ont une manière de parler inhabituelle, on va dire comme ça, hein, parce qu'on doit faire, court, ne pourraient pas accéder à la lecture. Alors ça, c'est vraiment un stéréotype sur lequel il faut qu'on arrive tous ensemble, culturellement, à revenir. C'est pas du tout vrai, hein, les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou d'autres particularités, hein, où le langage oral est moins développé, ont absolument accès à la lecture.
Et à la littérature.
Et à la littérature, exactement.
Est-ce que l'on pourrait penser que certains livres sont plus adaptés pour eux ou encore une façon d'amener le livre, de l'introduire auprès d'eux pourrait être plus appropriée?
C'est ça, exactement. Il n'y a pas un livre qui correspond à un niveau d'âge. Il n'y a pas une manière de faire qui correspondrait aussi pour tous les enfants. Hein. On en revient toujours à cette variabilité. Par contre, c'est certain qu'on va devoir adapter un certain nombre d'éléments. Par exemple, un enfant très jeune aura plus d'intérêt, de facilité à aller voir des albums de littérature, par exemple, ouais. Hein, qui sont très illustrés. Mais on va trouver un étudiant à l'université qui va lire des œuvres comme nous les lisons à l'université, malgré son trouble du développement. Par contre, les enseignants de leur côté et puis les parents d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a beaucoup de petites astuces que l'on peut utiliser pour médiatiser la littérature, c'est-à-dire essayer de rentrer dans toutes ces zones un petit peu d'incompréhension qu'on pourrait avoir, par exemple, par rapport à certains textes. Alors, exagérer la voix hein, pour accéder aux émotions, par exemple. Si vous voulez, je vous montre ce que ça donne
Oui, vous avez un bouquin devant vous.
Alors,
Delphine Toc Toc, qui est là, Sally Greenlee, Anthony Brown, hein, c'est ça, qui est un auteur assez prolifique, Anthony Brown, je le connais bien, assez rigolo également. Donc, ça pourrait être un exemple d'un bouquin qui fonctionne bien avec des jeunes qui présentent un trouble du spectre, oui, de l'autisme.
Exactement. C'est un de nos best-sellers des écoles, hein, qu'on utilise. Beaucoup de familles aussi l'utilisent. Pour faire rapide, c'est l'histoire d'une petite fille qui est dans son lit et quelqu'un toque à la porte. Toc, 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 sans arrêt. Et puis, différents personnages vont arriver en ouvrant cette porte et en lui faisant des blagues. Il y a un petit indice qu'il faut essayer de percevoir dans le livre pour se rendre compte qu'en fait, au final, c'est le papa qui s'est déguisé. Mais tout ça, c'est très implicite. Mm-hmm, hein, et donc, mm-hmm. Il faut aider l'enfant à se rendre compte de cette blague qui est proposée à son enfant. Et donc, la petite fille va ouvrir la porte, d'accord, les personnages vont rentrer et ensuite, de façon répétitive, elle va toujours dire la même chose. C'est un élément important pour les enfants parce qu'on a une récurrence, quelque chose qui revient sans arrêt. Mm-hmm. Alors, on peut s'arrêter dans la lecture et attendre que les enfants continuent à parler. Alors, si on veut aider l'enfant à comprendre le mécanisme de ce livre et aussi à rentrer à l'intérieur de l'histoire, on va pouvoir médiatiser de cette manière-là. Là, donc, je vous en lis un petit bout.
J'adore ça.
Toc, toc, toc. Qui est là? Je change de voix. Mm-hmm. C'est moi! Le fantôme effrayant, au visage blanc comme un linge, et aux chaînes cliquetantes. Quand tu me feras entrer, je te hanterai. Ouh! Alors, tu n'entreras pas. Hein? Donc là, j'ai pas de support visuel à vous montrer, mais bien évidemment, pour aider la compréhension, on va apporter un drap de fantôme.
Oui.
On va se cacher. Comme le fantôme. On va utiliser des chaînes et on va faire le bruit des chaînes. Donc, on va pouvoir essayer de jouer à la fois sur la voix, à la fois sur l'image et sur un support en trois dimensions qu'on va apporter pour permettre de comprendre toutes les références. Qu'est-ce qu'un fantôme? Pourquoi il y a un linge? Pourquoi il y a un drap? Pourquoi il y a des chaînes? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher dans notre univers culturel pour comprendre cet univers qui nous est proposé à l'intérieur de la littérature.
Donc, si je comprends bien, une multitude de supports afin d'accompagner l'enfant et également des références, de ne pas lésiner sur l'explication des références. En même temps, je me dis, parce que évidemment, on se met dans la peau des parents aujourd'hui, on pourrait se mettre également dans la peau des éducateurs, des enseignants, mais je préfère prendre le parti pris des familles. Ça s'apprend, tout ça, c'est un apprentissage en tant que parent d'accompagner son enfant qui a un TSA dans son apprentissage et son envie de lecture.
Alors oui, effectivement, l'année passée, à peu près à la même époque, on a publié d'ailleurs un livre sur la famille et la personne qui a un trouble du spectre de l'autisme. Et une des caractéristiques de ces familles est justement d'assez tôt dans le développement de ces enfants, puisque c'est des enfants qui sont dans une interaction très spécifique. Les parents sont très sensibles à ces signes dès le plus jeune âge. Et justement, de faire confiance en cette sensibilité qu'ils ont. Et très tôt, même si l'enfant n'est pas verbal, parce que ces enfants peuvent parler beaucoup plus tard que les enfants tout venant. On dirait que les parents sentent ça. Tiens, il faut que je lise, il faut que lire, c'est pas seulement pouvoir parler, c'est pas seulement pouvoir décoder, c'est aussi comprendre. Et même si l'enfant, pour une personne tout venant, on a l'impression qu'il comprend pas, ses parents sont souvent plus sensibles au fait qu'ils comprennent. Et c'est une occasion aussi de partager avec eux quelque chose dans la littérature qu'ils utilisent en famille. Et les parents, bien souvent, utilisent très, très bien les textes, justement, les histoires, pour aider leur enfant de manière, peut-être spontanée, mais souvent très justement, en utilisant la bonne intonation, en ayant vraiment cet ajustement vis-à-vis de l'enfant. Donc, moi, j'encourage les familles à continuer à prendre les albums qu'ils ont pris dans leur petite enfance, les comptes courants pour faciliter justement cet accès qui est parfois difficile pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, pour les enfants, tant en lien avec le développement du langage, avec la difficulté de lire plus tardivement, etc. Mais par contre, ça ne présume pas pas, qui ne comprennent pas. Et ça, c'est bien important. Et moi, je tire souvent plus des leçons de ce que les parents font avec leur enfant plutôt que,
l'inverse. Ce sont les experts. Hein.
Oui, tout à fait. Exact.
Mm-hmm. Ouais. Il y a un petit acronyme, si je peux me permettre de, de rajouter, qui aide bien à se rappeler peut-être très souvent comment on peut jouer justement avec, avec tous ces textes. C'est le ABC. D'accord, c'est tout
simplement.
Simple. ABC, animer, bouger, pour comprendre. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment très simple. Et ça, les parents sont experts dans l'animation. Je pense qu'ils ils le font tout le temps, hein, d'animer, de mettre en scène, d'utiliser leurs doigts pour mimer, de montrer des images.
Ça se fait instinctivement.
Ça se fait instinctivement. Ouais, ouais. Donc, prendre confiance et continuer, c'est vraiment la meilleure piste.
Et puis, peut-être, ce qui est unique pour les parents, et puisque nous, en tant que... quand on travaille avec les enseignants, on dit allez demander aux parents, c'est qu'ils connaissent les intérêts de l'enfant. Et ça, c'est vraiment excellent de dire, ben, tiens, mon enfant, il adore les trains, etc. Je vais prendre des livres qui vont voir avec ça. Et puis on dit, ah ben ils ont souvent des intérêts restreints, ça limite leur apprentissage. Mais non, au contraire, si on part de ça, si on se dit, ben tiens, on va pouvoir exploiter cet intérêt, puis lire, puis diversifier les lectures, ben justement là, les parents sont les experts de ça aussi.
Oui. Mais en même temps, si notre enfant, on le sait, on le connaît, aime les trains ou les insectes ou je ne sais trop, on peut d'abord et avant tout amener des bouquins là-dessus pour susciter son intérêt. Ça peut être une bonne voie à utiliser, j'imagine.
Et la littérature a ce pouvoir et cette chance d'être constituée en réseau. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ouvrages sur les trains. Il y a beaucoup d'ouvrages sur les insectes et aussi dans des champs très différents. Il peut y avoir des insectes en tant que personnages, mais aussi des documents scientifiques.
De la BD,
etc. Voilà. Donc, on peut vraiment travailler en réseau. Et puis, les insectes finissent quand même par rencontrer d'autres animaux. Donc, on peut partir de ces rencontres pour doucement aller vers d'autres intérêts. Et on tisse comme ça un maillage incroyable,
tout un univers
qui va se compléter. Et on sort des intérêts qui sont au départ très... plus restreint, on va dire, pour justement ouvrir à cette culture.
Et ça m'amène, Delphine, ça, lorsque vous dites sortir d'intérêt restreint, c'est d'amener l'enfant qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme à rencontrer l'autre, qui, on le sait, parfois, on ne veut pas généraliser, hein, on le sait, ils ont tous leurs défis bien particuliers, mais parfois, une difficulté dans les interactions sociales, interpersonnelles. Est-ce que la lecture peut aider ces jeunes-là?
Bien sûr, ça nous met en commun. La lecture, ça nous permet de partager. Hein. C'est vraiment... Et on partage avec beaucoup plus qu'un support oral. Mm-hmm. Hein, on peut aussi très bien utiliser les images pour partager, le mime. Toutes ces choses-là que l'on va faire ensemble nous permettent de partager autour de ces éléments-là. Et donc, il y a de la rencontre en permanence dans la littérature, aussi parce qu'il y a plusieurs personnages. Mm-hmm. Alors, les enfants dans les classes, on travaille beaucoup avec ça, vont interpréter des personnages et donc ils vont apprendre aussi à voir comment on fait pour interpréter un personnage avec un autre personnage en face. Hein, quand est-ce qu'on... C'est quand mon tour de parole, comment je pose une question, quel type de mimique je fais. Et puis comme on est dans la littérature, comme on est dans le fantastique, on va tout exagérer, vous comprenez bien. Donc c'est facile d'exagérer pour ensuite, dans le quotidien de nos vies, revenir à quelque chose de moins exagéré, moins amplifié.
Mm-hmm. Oui, puis ce qu'on sait aussi quand on commence à avoir de plus en plus de témoignages de personnes qui ont syndrome d'Asperger plus âgées qui ont dit que la lecture, l'écriture, l'écrit leur ont permis de mieux comprendre les choses, d'entrer justement dans le monde social, mais à travers un support qui est moins complexe dans le fond. Donc il y a toutes sortes d'angles qu'on peut prendre pour profiter du livre et aussi pour une adaptation dans les deux sens.
Puis il y a des mécanismes qui sont vraiment essentiels aussi dans l'apprentissage de la lecture pour des personnes qui ont peut-être une difficulté plus prononcée à oraliser. C'est que enfin pour eux, les mots sont bien distincts. Hein? C'est-à-dire que... chaque mot a sa fonction. Et puis, quand on lit, il y a un petit blanc entre chaque mot. Donc, je sais que d'ici à ici, c'est un mot bien précis. Vous savez, les enfants, c'est un phénomène qui n'importe quel jeune enfant va avoir à comprendre aussi. Et la plupart des enfants disent, ben, j'ai vu le néléphant. Alors, pourquoi ils disent j'ai vu le néléphant? C'est parce qu'ils ont des difficultés au début dans la chaîne de l'oral à comprendre que c'est un éléphant et que ce n'est pas un éléphant. Mm-hmm. Donc, le mot éléphant peut devenir le mot néléphant. Et ça, c'est fréquent dans la chaîne orale, parce que quand je parle, on ne sait pas très bien où s'arrête et où débute le premier de mes mots, le deuxième. Quand on lit, enfin, ça devient très clair. Il y a un petit blanc entre chaque mot. Alors ça, c'est une aide aussi énorme pour des enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou n'importe quelle autre difficulté au niveau du langage oral.
Oui.
Alors, on récupère beaucoup de pouvoir aussi à comprendre tous ces éléments-là. Et donc, ça nous permet d'office de mieux interpréter ce que l'autre est en train de nous dire à l'oral.
Est-ce que les outils techniques, je pense à des tablettes, par exemple, ça pourrait être certains logiciels, bon, tout ce qui est à notre portée, que ce soit dans les écoles ou dans les familles, peuvent aider les jeunes autistes à peut-être dans leur apprentissage de la lecture, dans leur découverte également?
C'est toujours ce qu'on en fait qui aide, ouais. Plus que l'objet lui-même. Oui, bien sûr, c'est une aide incroyable. C'est une aide aussi à la vocalisation. C'est une aide parce qu'on peut aussi... Il y a des petites applications qui nous permettent de créer aussi... des bandes dessinées ou bien du texte, se le faire lire, se le faire entendre. Ici, on est dans le royaume des livres lus. Mmh. Alors oui, bien évidemment, tout ça, ça peut être beaucoup d'aide. Je dirais que c'est pas l'outil lui-même qui repose, qui fait l'aide.
C'est vraiment la façon dont on l'utilise.
Voilà, parce qu'on serait seul devant notre tablette à regarder un livre. C'est peut-être pas tout à fait la même chose que si quelque chose se crée grâce à cette tablette dans une interaction.
Oui.
Alors...
C'est quelque chose qu'on travaille beaucoup justement avec les enseignants. Donc à l'UQAM, on propose un diplôme d'éducation spécialisée pour l'enseignement et l'apprentissage pour ces élèves-là. Et il y a un cours entier justement de comment on peut aider les enseignants pour se saisir de tous les outils, qui peuvent être utilisés auprès de ces élèves et pour exploiter l'écrit pour permettre la participation sociale de ces jeunes dès le plus jeune âge et la compréhension aussi de la complexité de la relation sociale.
Ouais. Ouais. Mais ce que je retiens, parce que bien sûr, là, on se dirige vers la conclusion, c'est que tout ce rapport-là au livre, à la lecture qui se fait avec le parent, va toujours finir par valoriser la relation, le contact, la stimulation, valoriser aussi l'affection que le parent et l'enfant ont ensemble. Donc, à quelque part, ça a juste du bon, tout ça, la relation parent-enfant et livre. C'est un trio...
Parfait.
Oui! Mais merci beaucoup, mesdames, parce que vous avez conforté l'une de mes pensées, de mes certitudes, en fait, à savoir qu'il n'y a pas de limite à la lecture et qu'il y a tellement de voies à explorer et qu'on peut vraiment créer beaucoup de choses là, autour de la lecture avec tout type d'enfants qui ont différents défis. Merci, c'était vraiment très éclairant, très intéressant. Je le rappelle, Céline Châtenoux, Delphine Odiegedge, vous êtes toutes deux professeures au département d'éducation et de formation spécialisée de l'UQAM. Mmh. En terminant, peut-être des propositions de lecture. Mmh. On a ce bouquin-là. Est-ce que vous avez peut-être des sites ou des titres qui pourraient inspirer nos parents?
Là encore, quel âge, quel enfant? On pourrait peut-être diffuser une liste? qu'on pourrait vous envoyer
ça.
Avec quelques indications plutôt que de lancer des titres à la volée.
Je vous donne encore du travail.
C'est ça. Oui.
Est-ce qu'on se croise au Salon du Livre?
Oui, on va faire un tour.
On va essayer, en tout cas.
Au plaisir de vous
croiser. Merci de nous avoir accueillis pour ce beau sujet.
Bonne journée.
Au revoir.